This city, of all cities, knows the dream of freedom.
Toi qui souffres, ici on t'aime.
I take pride in the words, Ich bin ein Berliner.
I have a dream.
Il ne durera pas toujours cette guerre.
J'invite tous les militaires français, où qu'ils se trouvent, à se mettre en rapport avec moi.
François Mitterrand l'affirme, il est en pleine santé.
Attendez que la gauche pense à Ewer en 2012.
I said I want to fuck her.
Que des mots pas très gentils.
Et tout se résume à aujourd'hui.
Jazzons l'histoire ou quand le jazz retrouve des repères, une émission de Gérard Viols et Alain Vaquier, réalisée par Léna Kim. Cette année-là, 1951, voit les États-Unis s'affronter à une affaire terrible. C'est l'affaire des Rosenberg. Alors de quoi s'agit-il ? En réalité, on est en pleine guerre froide et les États-Unis sont saisis d'une forme de paranoïa incarnée par un sénateur, le sénateur Joseph McCarthy, qui lance une véritable chasse aux sorcières qui va durer de 1950 à 1953. Alors Julius Rosenberg, ingénieur électricien, né le 12 mai 1918 à New York, et son épouse, Ethel Rosenberg, née le 28 septembre 1915 à New York, sont un couple de juifs new-yorkais qui ont le malheur de s'afficher communistes. Ils seront arrêtés pour espionnage au profit de l'Union soviétique. Julius fut arrêté le 17 juillet 1950 et Ethel le 11 août. Ils furent jugés coupables le 5 avril 1951 et exécutés sur la chaise électrique le 19 juin 1953 dans la prison de Sing Sing. Cette affaire d'espionnage eut lieu durant donc, la guerre froide, à un moment où les États-Unis et l'URSS étaient presque sur le point de poursuivre la guerre. On est en 1945. Mais les États-Unis, et on l'a vu par la suite, étaient les seuls à avoir l'exclusivité de la bombe atomique. Exclusivité qu'ils exerceront au Japon quelques années plus tard. Mais l'URSS put se doter dès 1949 de cette technologie, en partie grâce à l'espionnage. Et en réalité donc, les Rosenberg furent accusés d'espionnage industriel, technologique. Et donc, ils subirent cette chasse aux sorcières qui visait donc tous les gens, qui qu'ils soient, mais sympathisants, militants, agents dits communistes, qui pouvaient être dénoncés ou poursuivis par une commission qui demandait à ceux qui venaient d'être arrêtés de dénoncer ce que l'on allait arrêter. Et ainsi de suite, en accusation un nombre absolument incalculable de personnes. Sauf que bon nombre de ceux qui furent mis en cause ne furent pas exécutés, et ce qui ne fut pas le cas des Rosenberg. Alors la condamnation à mort des époux Rosenberg pour espionnage, alors même qu'ils ont toujours clamé leur innocence et que leur culpabilité n'a pas été prouvée, attira de grandes campagnes internationales, des appels à la clémence furent lancés, une campagne très médiatique a parlé d'un complot et d'une erreur judiciaire. Malgré cela, les époux Rosenberg furent d'ailleurs les seules personnes condamnées à mort puis exécutées pour espionnage dans le monde occidental après la fin de la Seconde Guerre mondiale. Diverses sources postérieures au jugement, dont des témoignages soviétiques, confirment que, à travers des conversations, il a pu y avoir des contacts, mais que jamais le caractère formel de cet espionnage ne fut établi, et donc que ces deux personnes furent exécutées alors que rien n'aurait dû les amener à la chaise électrique.
Un drame cependant vient de jeter un nuage sur ce début d'euphorie de l'esprit occidental. Condamné à mort dans les formes juridiques depuis 2 ans pour livraison de secrets atomiques, et après avoir usé de tous les recours, Ethel Rosenberg et son mari Julius Rosenberg, qu'on voit ici le jour de leur arrestation, ont subi la peine de mort malgré tous les appels à la clémence. Ils avaient attendu pendant 2 ans l'heure du supplice.
Terrible épisode donc de cette chasse aux sorcières qui dura plusieurs années et qui mina l'ensemble des États-Unis et notamment la scène artistique, puisque bon nombre de réalisateurs de Hollywood furent interdits de tournage à cause de ce genre de mise en accusation. Je pense notamment à un réalisateur qui s'appelait Dalton Trumbo, qui n'a pu dans sa vie réaliser que 2 films à cause de cette situation, qui était certainement un des cinéastes les plus prometteurs et qui a réalisé un film absolument remarquable qui s'appelle Johnny Got His Gun. Bref, cette année-là, 1951, c'est, comme je le dis toute cette semaine, le vent frais de l'Ouest qui souffle sur le jazz et le courant cool qui, peu à peu, s'impose sur la scène du spectacle. Le dernier musicien dont je vais vous parler est peut-être le plus célèbre, le plus connu. C'est en tout cas celui qui a peut-être donné l'impulsion finale et son caractère définitif à ce jazz-là. Il s'agit de Stan Getz. Stan Getz que l'on surnommait Mr. Sound. Alors pourquoi Mr. Sound ? Et bien parce qu'on considère, à tort ou à raison, que c'est le saxophoniste ténor qui avait le son le plus pur, hérité de, à la fois de Lester Young et de musiciens plus classique, plus traditionnel, et qui donc a imposé cette espèce de son extrêmement mélodieux, extrêmement évocateur, sensuel, disent certains. Et donc, en 1951, eh bien, Stan Getz commence à être très connu. Et je vous propose d'écouter un premier enregistrement. C'est un enregistrement, une composition de son pianiste, sur lequel je reviendrai tout à l'heure, il s'agit de Penny. Thank you. 23 janvier 1951, New York et le Sandgate Quartet enregistrent donc ce morceau Penny, écrit par Horace Silver, qui tient ici le piano à Horace Silver. Ce sera plus tard, quelques années plus tard, le chef de file, l'un des chefs de file du courant funky, qui donc publiera cet album intitulé Cantiga para mi padre, Song for My Father, puisqu'il était, il y avait le double titre, qui sera un véritable succès discographique cette année, l'année de sa publication. Là, il joue, évidemment, il n'est pas encore franchi ce stade, et il joue de manière plus classique, de manière assez percussive, qui contraste terriblement avec le son un peu éthéré. Et on voit bien que là, Getz commence à trouver ce son qui fera toute sa carrière. L'instrument s'est un peu détimbré et le son est devenu plus diaphane. Il y a quelque chose de très particulier dans sa façon de manier la hanche de l'instrument. Alors, c'est une année très importante, 51, pour Sandgate, parce qu'il va donc enregistrer aux États-Unis. On va écouter un autre extrait. Mais il va aussi voyager. Il va partir en Europe, en Suède. Et chaque fois, il aura l'occasion d'enregistrer avec des musiciens très différents. Je vous propose donc d'écouter un deuxième extrait de cette session du 23 janvier 1951. C'est encore une composition d'Horace Silver. Et c'est « Slip Kick ». Au mois de mars 1951, Sandgate quitte les États-Unis et part en Europe. il va faire une tournée européenne et notamment s'arrêter quelques jours en Suède. Et là, il va jouer avec des musiciens suédois. Et il va fonder son Swedish All Stars. Et le 23 mars 1951, il enregistre un morceau traditionnel et qui s'impose en l'occurrence, Dear Old Stockholm. Old Stockholm, enregistré par le quartet suédois de Stan Getz, qui, outre le musicien, était composé de Ben Alberg au piano, Gunnar Johnson à la basse et Jack Noren à la batterie. Et cela se passait évidemment à Stockholm. De retour aux États-Unis, Stan Getz reconstitue un groupe. Et là, il s'agit d'un quintet. Quintet composé toujours d'Ora Silver au piano, Jimmy Raney à la guitare, Leonard Gaskin à la basse et le fabuleux Roy Haynes à la batterie, et ils enregistrent le 15 août 1951 à New York un très beau thème de Gigi Grice, Yvette. Thank you. Stan Getz et son quintet enregistré à New York à son retour d'Europe. Cette même année, 1951, c'est une année phare pour les comédies musicales qui, durant les années 50, vont être très nombreuses. Et il en est une donc, qui sort en 1951. Elle obtiendra d'ailleurs le prix de la meilleure comédie musicale de l'année. Ce sera une grande joie pour George Gershwin qui en est le compositeur. Et pour Vincente Minnelli, qui en est le réalisateur, il s'agit de « Chantons sous la pluie ».
In my heart, and I'm ready for love. Let the stormy clouds chase everyone from the place. Come on with the rain, I've a smile on my face. I'll walk down the lane with a happy refrain, just singing. Singing in the rain, dancing in the rain, yeah, 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 yeah. I'm happy again. I'm singing and dancing. dancing and singing in the rain.
Vous aurez bien entendu reconnu Gene Kelly interprétant Singing in the Rain de la fameuse comédie musicale Un Américain à Paris de Vincent Minnelli, musique George Gershwin. Ainsi s'achève ce cinquième épisode et tout ce qu'il y avait à dire, enfin tout, presque tout ce qu'il y avait à dire sur l'année 1951.
This city, of all cities, knows the dream of freedom.
Toi qui souffres, ici on t'aime.
I take pride in the words. Ich bin ein Berliner.
I have a dream.
Il ne durera pas toujours cette guerre.
J'invite tous les militaires français, où qu'ils se trouvent, à se mettre en rapport avec moi.
François Mitterrand l'affirme, il est en pleine santé.
Attendez que la gauche porte J.W.R. en 2012.
I said I want to fuck her.
Que des mots pas très gentils.
Et tout se résume à aujourd'hui.